Seigneur, merci pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir recevoir ta parole. Nous bénissons ton nom et nous te louons parce que tu es le Dieu vivant et le Dieu fidèle. Viens prendre la première place au milieu de nous et dispose nos cœurs pour recevoir ta parole avec humilité au nom de Jésus. Amen. Nous lisons dans le livre de Jérémie au chapitre 18. Jérémie 18, du premier verset au verset 6. Jérémie chapitre 18. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Et il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Voilà la parole du Seigneur. Dieu parle à Jérémie. Il lui dit, lève-toi et descends dans la maison du potier et là, je te ferai entendre mes paroles. Alors la question qu'on peut se poser, est-ce que Jérémie avait-il réellement besoin d'être dans la maison du potier pour entendre la parole de Dieu, pour recevoir la parole de Dieu, pour comprendre ce que Dieu a à dire? Non, mais quand Dieu envoie Jérémie, parce que Dieu, il est arrivé que Dieu parle par des songes, par des visions, par des prophéties, qui se révèle à son serviteur, qui lui disent, va dire à la maison d'Israël ceci ou cela. Mais Dieu dit ici à Jérémie, va chez le potier, va dans sa maison, et quand tu seras arrivé chez le potier, je te donnerai ma parole, je te ferai entendre ma parole. En fait, Dieu voulait que Jérémie, en allant chez le potier, en voyant comment le potier travaille, qu'il saisisse le message de Dieu. En quelque sorte, Jérémie est en train de dire, Dieu dit à Jérémie, va chez le potier et ce que le potier fait comme travail, moi l'Éternel, je ferai la même chose avec mon peuple. Le travail que le potier fait accompli avec son argile, c'est le même travail que moi aussi je veux faire. Et bien aimé, je nous invite à voir sur les vidéos, même sur YouTube, ce que fait le potier, parce que quand on entend les choses comme ça, ça peut paraître un peu abstrait. On ne sait pas, beaucoup peut-être ne savent même pas qui est un potier, ne savent pas ce que fait un potier, comment travaille un potier, quels sont les outils que le potier utilise. Beaucoup ne le savent pas. Mais en regardant la vidéo, on comprend réellement quel est le travail du potier, quel travail de précision, quel travail de patience. C'est-à-dire que c'est le potier qui choisit son argile. C'est le potier qui pose l'argile. Vous savez, quand on est sur un tour, le tour, c'est une espèce de plateforme sur laquelle le potier va mettre son argile. Et cette plateforme-là, elle tourne très rapidement. Et c'est ça qui permet au potier, pendant qu'il manipule son argile, de donner une forme à l'argile. Et Dieu dit à Jérémie, va et vois ce que le potier fait. Ben moi, je veux faire la même chose. Le thème de notre partage de ce matin, c'est le façonnage. Le façonnage, c'est l'action de façonner un ouvrage. C'est le fait de donner une forme à un objet. Mais ce travail-là de façonnage, ce travail, ça peut être l'argile, ça peut être le verre, ça peut être plusieurs outils différents. Ce travail-là est un travail qui est minutieux, est un travail qui demande beaucoup de patience. Mais pour que ce travail réussisse, il faut que l'argile, que l'objet que le potier utilise se laisse faire, se laisse utiliser pour que le travail soit correct. On nous dit que le potier travaille sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas comme il arrive à l'argile dans la main du potier, et il en refit un autre, tel qu'il trouva bon de le faire. Donc, quand le potier travaille, il n'est pas satisfait de son travail, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il recommence. Il fait un autre vase. Il recommence le travail. Bien aimé, c'est ça le travail que Dieu veut faire en nous. Et c'est ce qu'il dit à Jérémie, va dans la maison du potier et vois comment le potier travaille. Et de la même manière que Dieu, le potier travaille son argile, Dieu veut travailler nos cœurs. Dieu veut travailler notre caractère. Dieu veut travailler nos comportements. Vous savez, l'argile, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai regardé un petit peu des vidéos, j'ai jamais été chez un potier, mais en regardant les vidéos, lorsque le potier prend son argile, le pose sur le tour, l'argile n'a pas de forme. L'argile n'a aucune utilité. L'argile, à ce moment-là, n'a aucune valeur. On peut marcher dessus. On peut piétiner cela. Cette argile-là est fragile. Bien-aimés, c'est ce que nous sommes en réalité. C'est ce que nous sommes en réalité. Et le travail du potier, c'est de pouvoir travailler cette argile, de façonner cette argile pour lui donner une forme, pour lui donner une certaine valeur. Quand je parle de valeur, c'est pas comme aujourd'hui dans les milieux chrétiens, on dit tu es ceci, tu es fort, tu es champion, tu es tous ces slogans-là qui exaltent l'orgueil de l'homme. C'est pas cela. Ce que Dieu veut, c'est que cette argile qu'il va fabriquer, ce vase qu'il va fabriquer, soit utile. C'est ce que nous dit 2 Timothée au chapitre 20, verset 2. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit dans une grande maison, il n'y a pas que de vases d'honneur, il y a plusieurs types de vases. Mais Dieu veut que nous soyons des vases d'honneur, que nous soyons utiles au maître. C'est ce que le Seigneur dit. Et c'est ce que Dieu veut que nous soyons aussi. Et cette argile, comme je disais, il n'a aucune valeur. Qui donne la valeur à l'argile? C'est le potier. Il fixe l'argile sur le tour et il le travaille patiemment. Et lorsque j'ai regardé la vidéo, parfois, quand il fabrique son vase, comme le tour tourne tellement vite, il faut une bonne dextérité et au bout d'une minute, on peut penser que ça y est, c'est bon. Là, la forme est belle. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez voir que le travail n'est pas fini. Et plus ça va, plus le potier, avec une éponge, met sa main à l'intérieur. Et finalement, au bout d'une minute, on pensait que c'était fini. Mais en réalité, le travail n'était pas fini. C'est à la fin qu'on se rend compte, on se dit, « Ah, d'accord !» Je comprends ce que ce monsieur voulait faire. Et bien aimé, c'est la même chose avec nous. On pense que le travail est fini. On pense que c'est bon. Je suis chrétien. On pense que c'est bon. J'ai accepté Jésus. Gloire à Dieu. Je suis né de nouveau. Je sers le Seigneur. Je suis homme de Dieu, femme de Dieu. Je suis dans une équipe. Mais bien aimé, c'est pas ça l'objectif du Seigneur. L'objectif du Seigneur, c'est que nous puissions ressembler, Luc 6:40, à notre maître Jésus, tout disciple accompli sera comme son maître. C'est ça l'objectif final. Il est écrit dans Éphésiens 4, 11, le Seigneur dit qu'il a établi des pasteurs, des docteurs, des prophètes, des évangélistes, tous ces gens-là, pour les prophètes, pour amener les chrétiens à la stature parfaite de Christ. Pour être mature, pour ne pas être emporté à tout vent de doctrine. Donc, il y a un ensemble, mais cet ensemble-là n'est possible qu'en atteignant la stature parfaite de Christ. Bien-aimé, c'est un travail qui demande beaucoup de patience de la part de Dieu, parce qu'il travaille tous les jours. Il est à l'ouvrage. Il travaille. Il nous façonne. Et nous allons voir comment Dieu nous façonne. Mais réalisons, bien-aimé, que Dieu est le potier. Réalisons que nous, nous sommes l'argile entre ses mains. Nous lisons Ésaïe 64, verset 7. Ésaïe 64, 7. Ésaïe 64, 7. La Bible nous dit, « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » Nous lisons Éphésiens 2, 8. Éphésiens 2, c'est un passage que nous connaissons, qui dit que nous sommes sauvés par grâce. Nous lisons Éphésiens 2. Éphésiens 2, voilà ce que le Seigneur nous dit. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, verset 8, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Bien aimé, ce verset est très important. Il nous dit que nous sommes sauvés par grâce, c'est Dieu qui fait le travail en réalité. Nous, ce que nous avons à faire, c'est d'accepter ça. Accepter ça par la foi. La foi, c'est quoi? C'est comme si, à l'extérieur, il y a du soleil. Eh ben, si moi, je suis dans ma maison, je ferme les volets, je ferme les fenêtres, je ne bénéficierai pas du soleil qui frappe à l'extérieur, du beau temps qui est à l'extérieur. Il faut que j'ouvre le volet, j'ouvre la fenêtre pour recevoir. C'est ça, la foi. Dieu est là. Il s'exprime. Alors, il y en a qui ferment les volets. Il y en a qui ferment la porte. Ils disent, ah, mais j'ai froid dans la maison. Ils disent, mais c'est humide dans la, mais oui, c'est humide parce que il faut que tu ouvres les volets. Et c'est quand tu ouvres que tu peux bénéficier. C'est ça, la foi. On dit que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Et Dieu rajoute, cela ne vient pas de nous. Mais on nous dit plus loin que nous sommes l'ouvrage. C'est ce que nous avons lu dans Ésaïe 64. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Pourquoi? Créé pour pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Dieu a déjà préparé des œuvres. Dieu a déjà préparé son plan, comme il est écrit dans Jérémie 29, 11, il dit que je connais les projets que j'ai formés pour toi. Bien aimé, ce ne sont pas nos projets à nous, ce sont les projets de Dieu, de sauver les hommes, d'aller témoigner du Seigneur, ce qu'on appelle communément l'évangélisation, de chanter pour le Seigneur, de le servir. Tout ça, ce sont des projets de Dieu. Il a préparé ça à l'avance. Et notre part à nous, c'est d'accepter maintenant le travail qu'il fait en nous pour pouvoir entrer dans ce projet-là pleinement et totalement. Et pour entrer dans ce projet, bien aimé, Dieu nous façonne. Dieu nous travaille. Dieu travaille nos cœurs. Dieu nous brise. C'est ça le travail que Dieu fait. Alors, prenons conscience de cela aujourd'hui, bien-aimés. Que Dieu nous façonne. Mais on nous dit ici, dans Jérémie que nous avons lu, parfois quand il fait le vase ne réussit pas. Mais pourquoi le vase ne réussit pas? Parce qu'en réalité, il ne se laisse pas faire. Parce qu'en réalité, il ne veut pas accepter le travail que Dieu fait. Parce qu'en réalité, il conteste. Lisons Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. Bien-aimés, ce sont des passages à connaître. Ce sont les trésors de la Bible. Toute la Bible est un trésor. Romains 9, 20 à 21. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? On nous dit, mais ô homme, qui es-tu pour contester avec Dieu? Qui es-tu pour contester? Qui sommes-nous, bien-aimés, pour contester avec Dieu? On a dit en introduction que ce n'est pas l'argile qui choisit d'être travaillée par le maître. Non, c'est le potier qui choisit son argile. C'est le potier qui pose son argile sur le tour. C'est le potier qui fixe. Et un détail, c'est que quand le potier pose son argile sur le tour, l'argile doit être fixée sur le tour. Parce que comme le tour tourne tellement vite, en fait, quand il se fixe, il est collé. C'est comme s'il est soudé. Et avec cette chaleur-là, avec la puissance des tours que ça fait, une fois que l'argile est travaillée, vous savez comment le potier retire son vase du tour? Il prend un fil pour couper. Parce qu'il ne peut pas retirer ça de ses mains. Il doit couper. Donc, l'argile est fixée. Et on nous dit, qui sommes-nous bien-aimés pour contester avec Dieu, pour dire, mais non, je ne suis pas d'accord. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut m'apprendre, n'est-ce pas? Des questionnements que nous avons, que nous disons, oui, mais j'ai déjà compris ce que Dieu veut faire. Mais où est-ce que Dieu veut m'amener encore? Mais pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi Dieu me fait passer par telle situation? Mais j'ai déjà compris. Bien-aimé, tu penses avoir compris, mais la Bible dit que les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Tu penses avoir saisi les choses, mais qui décide? C'est Dieu qui décide. Quand tu rends ta copie d'examen, combien de fois il nous est arrivé de dire, ah ben sur 20 questions, j'ai répondu à 20 questions, c'est bon, j'ai tout bon. Combien de fois ça nous est arrivé? Bien sûr, quand on est honnête, parfois on sait que bon là, l'examen, je ne l'ai pas eu. Mais des fois on est sûr, on se dit, là j'ai bien répondu, j'ai tout bien. Et parfois la note arrive, tu t'attends à avoir 20 sur 20, tu vois que tu as 13. Mais l'enseignant, lui qui corrige la copie, ben lui, il saura justifier pourquoi il t'a mis 13. L'écart est très grand, mais oui, mais parce que c'est l'enseignant qui décide. C'est l'enseignant qui te lit. C'est l'enseignant qui corrige et qui a ses critères à lui. Parfois, il vérifie aussi les fautes d'orthographe. Toi, tu as écrit en disant, ben, j'ai bien répondu, mais oui, mais tu as peut-être négligé aussi les fautes d'orthographe. Tu as peut-être négligé des détails importants. Tu t'es dit, bon, je mets ça, il comprendra. Mais non. Lui, quand il va corriger, ça sera en fonction de ses critères à lui. Et c'est de la même manière que travaille le potier. Dieu nous façonne. Mais bien aimé, souvent, nous résistons au façonnage. On a dit le façonnage, c'est l'action de façonner un ouvrage, l'action de donner une forme à un objet. Bien aimé, c'est ça le travail que Dieu fait. C'est ça le travail que Dieu fait. Mais nous ne comprenons pas toujours. Et puisque nous ne comprenons pas, ben nous ne sommes pas d'accord, nous contestons. Pourquoi Dieu a fait comme ça? Pourquoi ceci? Et c'est une des raisons, bien-aimées, qui fait que on a beau être chrétien depuis 10 ans, 15 ans, mais on tourne en rond. Pourquoi? Parce que nous n'acceptons pas de nous laisser faire entre les mains du potier. Entre tes mains, j'abandonne. C'est ça ce que Dieu attend de nous, que nous puissions nous abandonner entre ses mains. On a chanté, change mon cœur, Seigneur. Seigneur, Jésus, tu es le potier. Nous sommes l'argile. Brise-moi et façonne-moi. C'est ça le travail que Dieu veut faire en nous, bien-aimés. Ne résistons pas au travail que Dieu fait. Ne murmurons pas lorsque Dieu travaille, même si parfois on ne comprend pas tous les détails. Ayons une certitude que c'est le Seigneur qui est notre Créateur. Nous sommes son ouvrage, bien-aimés. C'est pour ça qu'on a lu Ésaïe 64, on a lu Éphésiens 2 qui dit que de toutes les façons, qui nous a sauvés? C'est Dieu. Qui est venu vers nous? C'est Dieu. Alors si c'est Dieu qui vient vers nous, qui vient nous sauver, alors à combien plus forte raison ne s'occuperait-il pas de nous? Mais ce que Dieu veut, c'est briser ce qui est en nous. Briser les certitudes qui sont en nous. Mais beaucoup murmurent. Beaucoup se fâchent. Beaucoup n'acceptent pas. Beaucoup résistent. Beaucoup s'en prennent même aux humains. Beaucoup prennent des décisions radicales en disant, à partir d'aujourd'hui, je ferai comme... Mais bien-aimés, comprenons, bien-aimés, que quand quelque chose nous dérange, nous contrarie, puisque nous sommes enfants de Dieu, alors c'est Dieu qui fait son travail. C'est Dieu qui nous travaille. De la même manière que un patient est sur le lit de la salle d'opération. Vous imaginez si le médecin chirurgien vient pour opérer le malade. Le cardiologue, par exemple, vient pour opérer. Il met un coup de bistouri. Le malade met la main. Aïe, 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 aïe. Vous pensez, vous savez qu'il y a des opérations qui durent 10 heures. 10 heures d'opération. 5 heures d'opération. Vous pensez que pendant 5 heures, le malade, aïe, 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 aïe. Mais à un moment donné, le médecin va dire, eh ben, on arrête. Moi, j'ai vu des dentistes parfois, pas très courtois. Il arrive, il fait les soins, tu, aïe, aïe, tu mets la main. Ben, à un moment donné, ben, il dit, ben, ok, on arrête. Voilà. Parce qu'il ne peut pas travailler. Il va dire, ouvre la bouche. Ouvre en grand. Ne bouge pas. Ceci. Ah, docteur, je veux cracher. Docteur, ceci. Docteur, de... À un moment donné, ben, il ne fera pas son travail comme il veut le faire. Ou alors il fera rapidement, mais le travail sera bâclé, excusez-moi le terme. Le travail sera fait rapidement parce qu'il n'est pas dans les bonnes conditions. Mais Dieu, ce n'est pas cela. On nous dit, quand ça ne réussit pas, il prend son temps. Il attend que tu te calmes. Une fois que tu es calmé, il dit c'est bon, allez on recommence. Nous on pense quand il dit c'est bon, allez on peut passer à autre chose. Non, non, c'est bien aimé, on a affaire à l'Éternel. Tu t'agites, il attend que tu te calmes. Tu t'es calmé, ok, on reprend la même chose. Jusqu'à ce que nous saisissions et nous passons à autre chose. Bien-aimé, c'est ça le façonnage. Dieu nous travaille. Dieu travaille nos cœurs. Il y a des choses que nous ne comprenons pas. On se dit, mais pourquoi cela? Mais oui, Dieu, lui, il a ses raisons. Vous savez, lorsque je médite l'histoire de quelqu'un comme Job, on dit de Job, c'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Job était intègre, craignant Dieu. Comme personne à son époque. Non seulement il était intègre, mais il craignait Dieu. C'est-à-dire, quand on dit il craignait Dieu, c'est-à-dire qu'il avait une crainte, mais pas une crainte de peur. Il avait une crainte respectueuse. C'est-à-dire qu'il considérait Dieu à tel point que quand il offrait des sacrifices à Dieu, il offrait des sacrifices aussi. Non seulement pour lui, mais pour ses enfants. En se disant quoi? On ne sait jamais. Peut-être que mes enfants ont déshonoré l'Éternel. Alors, j'offre des sacrifices parce que les sacrifices étaient une marque d'adoration qu'on offrait à Dieu. Il dit, j'offre pour moi, mais j'offre aussi des sacrifices pour mes enfants. Au cas où ils auraient mal agi devant l'Éternel. Bien-aimés, voyez un homme comme ça, comme Job. Mais nous savons ce que Job a vécu. Nous savons que Job a tout perdu. Nous savons que Job a été même attaqué dans sa propre santé. Nous savons que Job, qui était correct, a été même accablé par ses trois amis en disant qu'il avait péché. Alors on peut chercher, bien-aimé, midi à 14h, on peut chercher toutes sortes de raisons, mais Job n'avait pas péché. Mais pourquoi Dieu a permis cela? Dieu a permis cela pour glorifier son nom tout simplement. Bien-aimé, c'est difficile. Comment un humain va souffrir pour que Dieu soit glorifié? Oui, oui, c'est ça. Dieu peut permettre parfois qu'on souffre, mais pour sa gloire. Lui-même, il est glorifié. On se rappelle ce qui s'est passé quand Satan vient... Dieu lui demande, mais d'où viens-tu encore? Il dit, mais je viens de me promener. Je viens de voir la terre. Dieu lui dit, as-tu remarqué, as-tu vu mon serviteur Job? Satan lui dit, oh, mais est-ce que tu penses vraiment que c'est délibéré? Est-ce de manière désintéressée que Job te craint? Non, il te craint parce que tu es bon avec lui. Et c'est là que Dieu dit, autorise Satan. Il dit, vas-y. Tu ne touches pas à sa vie. Mais tu touches à tout ce qui lui appartient. Job n'a pas péché. Mais Dieu a permis cela parce qu'il voulait tout simplement glorifier son nom. Vous savez, il est écrit dans Actes des Apôtres que les apôtres, les disciples, quand ils étaient fouettés, frappés, il est écrit quoi? Qu'ils étaient contents de glorifier l'Éternel par le fait qu'ils étaient frappés. Pour eux, c'était la gloire de Dieu. Ils se disaient qu'on n'est pas digne. On n'est pas digne qu'on nous frappe pour Jésus. Bien-aimés, qui a aujourd'hui à notre époque, quand il est frappé, persécuté au travail, va se réjouir pour dire « Ah là là, Seigneur, je ne suis même pas digne de souffrir pour toi. Fais-moi souffrir encore plus. » L'apôtre Paul dit « Ce qui manque aux souffrances de Christ, moi je le porte dans ma chair. » Quand le Seigneur parle à Ananias, il dit « Va voir Paul dans Acte 9. » Il lui dit « Cet homme-là est un instrument que j'ai choisi pour faire quoi ? Pour souffrir pour mon nom. » Il va annoncer la parole. Il va faire connaître mon nom aux humains, mais c'est un instrument que j'ai choisi pour souffrir pour mon nom. C'est cela, bien-aimé. Donc, Dieu peut permettre des situations tout simplement pour que son nom soit glorifié. Voilà. De voir qu'un homme est prêt à renoncer à son humanité, à renoncer à sa santé, à renoncer à son bien-être, tout simplement pour souffrir pour Dieu. Mais qui est prêt à accepter cela aujourd'hui? Qui est prêt à accepter cela? Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts à vivre l'injustice? Pour la gloire de Dieu? Puisque nous sommes chrétiens, il est écrit, n'est-ce pas, 2 Timothée 3:12, que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Est-ce que nous sommes prêts à cela? Quand ça arrive, on se dit, mais Seigneur, c'est pas normal. Mais pourquoi ceci? Mais pourquoi je suis? Mais, bien-aimé, c'est ça que nous appelons le façonnage. Dieu est en train de nous façonner. Il est en train de nous travailler. Mais comme nous l'avons dit, cela nécessite notre collaboration. Faire traîner les choses, bien-aimés, ne nous fera pas avancer. Faire traîner les choses fera que Dieu prendra son temps. Vous savez, lorsque Israël est sorti de l'Égypte, on nous dit qu'il y avait un chemin qui était plus court, qui faisait peut-être 10 jours, 11 jours, pour arriver en terre promise à Canaan. Il y avait un chemin court. Mais on nous dit aussi que Dieu lui-même a choisi le plus long. Il s'est dit, on prend le chemin court, les enfants d'Israël qui sont tellement têtus pourraient revenir vite sur leurs pas, changer d'avis. Alors Dieu lui-même choisit de prendre l'autre chemin. Le plus long, en passant par la mer Rouge, en passant par ceci, en passant par d'autres peuples qu'il faut conquérir, en passant par ceci. Mais l'objectif de Deutéronome 8, Dieu dit, Israël, souviens-toi de tout le chemin par lequel l'Éternel t'a fait traverser, t'a fait passer. Souviens-toi de tout cela. Dans tout ce périple, as-tu manqué de quelque chose? As-tu manqué de quelque chose? Mais Dieu dit, moi j'ai permis tout cela pour un objectif. Voir si, malgré tout, tu t'attaches à ma parole. C'est ça l'objectif de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous façonne. Dieu dit à Israël, tes chaussures se sont-elles usées? Pas du tout. Tes chaussures ne sont point usées. Mais j'ai choisi de te faire passer par là pour travailler ton cœur, pour te briser. Cela nécessite notre collaboration. Nous lisons un passage, c'est dans 1 Samuel 13, et nous allons tirer un enseignement aussi par rapport à notre thème d'aujourd'hui, du façonnage que Dieu fait, du travail de potier que Dieu accomplit dans nos vies. On peut commencer à lire au verset 5. 1 Samuel, donc c'est l'histoire de Saül qui est roi, qui est devenu roi et qui doit aller combattre contre les Philistins. Il a reçu un ordre de la part de l'Éternel, par la voix de Samuel, lui disant d'attendre le terme fixé parce que Samuel devait revenir pour offrir un sacrifice et ainsi donner des instructions pour aller à la guerre. Alors on arrive au verset 5. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste comme il achevait d'offrir l'holocauste. Voici Samuel arriva, et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait ?» Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Micmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait ordonné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Bien-aimé, voilà l'histoire de Saül. Saül n'attend pas le terme fixé. Bien évidemment, il a attendu 7 jours. Bien-aimé, c'est ça le façonnage. C'est-à-dire qu'il y a parfois des ordres que Dieu te donne. Des versets que tu reçois, tu te dis, mais je ne vois pas l'intérêt. Pourquoi? Saül a attendu 7 jours. Mais il a respecté ou pas? Il a respecté. Mais l'ordre, c'était lequel? C'était, avant d'aller en guerre, il devait attendre la venue de Samuel. Il a attendu 7 jours. Mais il n'est pas allé jusqu'au bout du travail que Dieu lui a demandé. Bien aimé, c'est ça aussi qui arrive à beaucoup de chrétiens. Pourtant, il a attendu 7 jours. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il a quand même fait preuve d'une certaine foi, d'attendre 1 jour, 2 jours, 3 jours, de voir que les gens partent, de rester jusqu'au 7e jour, à Gilgal, sans bouger. L'homme peut faire, peut produire des choses qui sont parfois étonnantes. On peut voir un frère, on se dit, ah là là, comment le frère est calme. Comment le frère est gentil. Comment le frère est patient. Mais bien aimé, ce texte nous apprend que l'homme aussi, par une certaine force, il peut produire des choses qui sont bien. Mais ces choses-là sont limitées. Celui que tu dis qu'il est gentil, il est bon. Il est gentil et bon parce qu'il n'a pas encore été confronté à quelqu'un qui est méchant et méchant. Celui que tu dis qu'il est patient, il n'a pas encore été confronté à une personne qui met sa patience à rude épreuve. Celui que tu dis qu'il est gentil, il est calme, il n'a pas été encore confronté à quelqu'un qui va le faire sortir de ses gonds. Bien-aimé, c'est une réalité. Mais Dieu, lui, ce qu'il veut faire, c'est quoi? C'est enlever ce qui est humain en nous. Même si ça peut paraître beau, propre, bien. Non, ça reste humain. Et puisque c'est humain, comme on a dit le mardi dernier, on n'a pas affaire à des humains, on a affaire à des esprits. Donc, avec ta force humaine, tu pourras vaincre des humains. Tu pourras être plus gentil que des humains. Tu pourras être plus patient que des humains. Mais quand le diable va t'envoyer maintenant un esprit, un humain avec un esprit venant du diable pour te combattre, est-ce que tu vas supporter? Ben non, c'est ce qui arrive que certains chrétiens manquent de maîtrise. On se dit, mais je comprends pas, mais j'ai toujours été fidèle. Mais oui, c'est parce que tu t'es reposé sur ta force. Tu as refusé le travail du potier de Dieu. Parce que, bien aimé, vous savez, la Bible dit que l'œuvre que Dieu commence, il amène à... L'œuvre que Dieu commence, il amène à la perfection. Donc Dieu ne s'arrête pas en chemin pour dire, oh mais c'est déjà joli. Comme j'ai dit tout à l'heure, lorsque je regardais les vidéos sur du potier, quand il fait ses ouvrages, parfois tu regardes, tu dis, ah c'est joli, ah d'accord, c'est une espèce de bocal, c'est une espèce de... Mais non, lui, dans sa tête, lui, c'est ce qu'il va faire. En fait, pour le potier, c'est la fin qui compte. C'est ça que lui, il attend et qu'il veut atteindre, c'est la fin, l'objectif. Mais toi qui regardes, qui es observateur, tu vas dire, ah, mais là, c'est bien, il peut laisser comme ça. Ça peut faire un petit pot ou un petit bocal pour mettre des fleurs, c'est joli. Mais non, lui, il va te dire, non, moi, je veux pas ça. Moi, je veux une forme comme ci, comme ça. Saül a attendu 7 jours, mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Et quelle est la conséquence, bien-aimé, de cette désobéissance? C'est ça qui fait mal, bien-aimé. Qu'est-ce que Samuel lui dit? Il dit, oh là là, tu as désobéi. Désormais, ton trône ne sera plus éternel. Il ne durera plus sur Israël. Parce que Dieu s'est choisi quelqu'un d'autre. Bien-aimé, qu'est-ce que je veux apporter comme enseignement avec ce passage pour nous dire que Dieu travaille en nous, Dieu travaille dans nos cœurs en fonction de ce que nous acceptons, en fonction de ce que nous acceptons de céder, en fonction de ce que nous acceptons qu'il fasse en nous. Si on dit non, Seigneur, arrête-toi, eh bien, le Seigneur s'arrêtera. Mais est-ce qu'il a atteint son objectif? Malheureusement, il n'a pas atteint son objectif. Mais puisqu'il est bon, il va revenir pour travailler encore. Mais tu peux encore dire, non, Seigneur, je ne veux pas. Et il va s'arrêter. Est-ce que l'objectif est atteint? Dieu travaille en nous, bien-aimés, en fonction de ce que nous acceptons. Imaginez que Saül ait accepté d'obéir jusqu'au bout. Qu'est-ce qui se serait passé? Finalement, son règne durer sur Israël, aller durer sur Israël. Mais puisqu'il a refusé, puisqu'il a désobéi, son règne s'est arrêté. Et Dieu lui dit, j'ai choisi quelqu'un d'autre. Bien-aimé, je prends cet exemple-là pour nous montrer que c'est ce qui nous arrive aussi. Bien souvent, nous refusons le travail que Dieu fait. On se dit, mais j'ai déjà beaucoup. Vous savez, il y en a avec qui tu parles, il dit, mais j'en ai beaucoup gagné, hein. Tu sais, autrefois, moi, je ne supportais pas qu'on me critique. Tu sais, moi, autrefois, je ne supportais pas qu'on me fasse une remarque désobligeante. Tu sais, moi, autrefois, je ne supportais pas. Mais bien aimé, Dieu ne va pas se compter. Oui, gloire à Dieu. Mais quand tu comptes comme ça, eh ben, c'est mal comprendre Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire, Seigneur, je meurs. Seigneur, je me donne à toi. Seigneur, j'accepte. Et c'est ce que Saül devait faire. Il voit les gens partir, c'est Dieu qui lui dit « Attends 7 jours ». Il aurait dû dire quoi ? « Bon, Seigneur, je suis à Gilgal. Eh ben, je ne bouge pas. S'ils doivent nous tuer, s'ils doivent nous massacrer, qu'ils nous massacrent. Mais moi, je m'attends à toi. » C'est ça. Mais c'est là que l'instinct humain revient pour dire « Ah non, non, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on se défende. » Alors, il rassemble les gens, il dit « Donnez-moi l'Holocauste, je vais sacrifier. » C'est ça que là que la force humaine revient, bien-aimé. Et c'est ce qui nous arrive. On a déjà fait un long chemin. 7 jours d'attente. On a patienté. Et un jour, on décide de tout arrêter. Qu'est-ce que c'est insensé, bien-aimé? Si nous sommes chrétiens, c'est pour ressembler au Maître. C'est pour ressembler à Jésus. Et Dieu, bien-aimé, travaillera en nous en fonction de ce que nous acceptons. Dieu ne s'impose pas. Dieu ne s'impose pas. Lisons la Bible, nous verrons les exemples de tous les gens que Dieu a appelés, tous les gens que Dieu a brisés, tous les gens que Dieu a façonnés. Certains ont peut-être résisté, mais ils ont fini par se laisser faire par Dieu. Ils ont fini par se laisser travailler par Dieu. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. On voit des chrétiens qui sont en colère, qui sont toujours énervés parce qu'il y a ceci ou cela qui ne va pas. Pourquoi nous résistons? Parce que parfois, il y a l'esprit de contrôle. Saül, ce qui arrive, ben, il veut contrôler les choses. Bien-aimés, renonçons à l'esprit de contrôle. Il se disait, ben, en faisant les choses, ben, je suis sûr de gagner la bataille. Mais quelle a été la conséquence finalement? Tu ne seras plus roi. Même si, vous savez, Saül est resté combien de temps à la tête d'Israël? 40 ans. 40 ans, c'est beaucoup. Mais s'il avait obéi jusqu'au bout, ça n'aurait pas été 40 ans. Ça aurait été autre chose. Et même quand vous voyez la succession, la suite après, ce qu'est devenu Israël. Bien sûr, David est venu pour relever la tête d'Israël, qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais quand vous voyez après, vous voyez que les gens qui ont suivi ont désobéi. Après David, après Salomon. Salomon aussi s'est mal comporté à un certain moment, en allant prendre des femmes étrangères, en faisant ces choses. Voilà la conséquence, bien-aimés. Parfois, c'est l'esprit de contrôle, on veut diriger. On veut contrôler les choses. On dit, moi, c'est comme ça, c'est comme si. Mais vous savez, Dieu n'est à la merci de personne. On dit que le potier fait comme bon lui semble. Jésus nous dit dans Jean 15, « Je suis le cep, vous êtes le sarment. » Et il dit, « Pour que vous puissiez porter beaucoup de fruits, ben, que fait le maître ? Il émonde, il taille, il coupe. » Il coupe quoi ? Il coupe les branches mortes. Il coupe ce qui n'est pas utile. Parce que ce qui n'est pas utile va finir par tuer la véritable plante. Et c'est ce qui nous arrive. On te dit, bien-aimé, attention à l'orgueil. Ah non, 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 moi je... Non, 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 moi je... Mais l'orgueil se manifeste comment ? L'orgueil se manifeste quand on pense qu'on est au-dessus des autres. L'orgueil se manifeste quand... Tout le monde, on pense que tous les autres ont tort. C'est moi qui ai raison. L'orgueil, c'est quand on pense que, ah non, mais ils m'ont mal compris. Je sais pas pourquoi les gens me comprennent pas. Je sais pas. Pourtant, c'est clair. Mais c'est ça l'orgueil, bien-aimé. Mais avec un tel comportement, comment tu veux avancer et atteindre la stature que le Seigneur veut nous donner, la stature de Jésus? Mais ça sera difficile. C'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens, parfois même, vont se disputer. On te dit quelque chose, tu prends le téléphone, tu insultes la personne. Bien-aimés, acceptons d'être façonnés. Dieu travaille en nous en fonction de ce que nous acceptons. Mais pour accepter cela, il faut accepter de mourir totalement. Il faut accepter de dire, Seigneur, je perds le contrôle, Saül. Devait se dire, ben, Seigneur, je perds le contrôle. Tout le monde part, j'ai pas de soldat. Je me retrouve seul. Aide-moi, Seigneur. Et vous voyez, c'est au moment où il vous désobéit que Samuel arrive. Quel gâchis. Quel gâchis. Et c'est ce qui nous arrive aussi. On se dit, j'ai déjà abandonné ceci, j'ai déjà abandonné cela, mais tout cela n'impressionne pas le Seigneur. Le Seigneur, lui, sait ce qu'il faut abandonner. Il sait là où il va travailler. Vous vous rappelez de l'homme riche dans Luc 18 qui vient voir Jésus pour dire, bon maître, que dois-je faire? Jésus lui dit, mais qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Honore ton père et ta mère, fais ceci, fais cela. Il dit, mais Seigneur, mais je fais cela depuis ma jeunesse. Jésus lui dit, une chose te manque. Tout ce que tu as comme richesse, vends-le, distribue ce que tu reçois aux pauvres et viens, suis-moi. On nous dit que l'homme est reparti tout triste. Dieu agit en nous, bien-aimés, en fonction de ce que nous acceptons. Mais accepter implique perdre aussi le contrôle. Accepter implique finalement que ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Dans une discussion, ben, j'accepte d'avoir tort. J'accepte d'être repris. C'est cela, bien-aimé. Acceptons le travail que Dieu veut faire en nous, bien-aimé. Acceptons d'être façonnés par le Seigneur. Ne nous mettons pas en colère. Il y a parfois des gens autour, tu te mets en colère, en colère, en colère, tout le temps irrité. Ça dénote quoi? Ça dénote tout simplement que tu refuses le travail que Dieu fait. Parce qu'on doit comprendre qu'en tant que chrétien, notre vie est dans les mains de Dieu. Donc ma vie à moi ne dépend pas de la réaction ou de ce qu'un humain peut faire. Non. Ma vie à moi dépend de ce que Dieu décide. Puisque je suis son enfant. Alors s'il décide des choses difficiles, il décide des choses que je ne comprends pas, qui m'énervent, alors je dois me tourner vers lui pour dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à supporter. Aide-moi à avoir la bonne attitude. Et Dieu, bien-aimé, va utiliser différentes choses pour nous façonner. Dieu va utiliser sa parole. Dieu va utiliser la Bible. Il est écrit que toute parole est inspirée. Toute parole vient de Dieu et inspirée et utile pour corriger, pour enseigner, pour reprendre, pour redresser. Bien-aimé, vous savez, tous ces mots qu'on emploie là, ce ne sont pas des mots qui font plaisir. Hein, se faire corriger, ah ben, ça ne fait pas toujours plaisir. Ça ne fait pas toujours plaisir qu'on te corrige, qu'on te reprenne. Ah, mon frère ou ma sœur, là, tu vois, tu as mal parlé. La Bible dit que celui qui redresse doit le faire avec douceur. Là, mon frère, tu as très mal parlé. Va t'excuser. Ah, oh, mais pour qui tu te prends? D'ailleurs, toi qui parles. Ah, mais non, mais ce n'est pas question de toi qui parles. C'est question de que dit la Bible? Que dit la Bible? La Bible dit dans 2 Pierre que ce n'est pas par la volonté des hommes que les hommes ont parlé. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais Dieu utilise qui? Il utilise des hommes. Il utilise des hommes pour nous parler de sa parole. Certes, il peut utiliser des songes, il peut utiliser, mais il va utiliser aussi des humains. Bien-aimés, c'est ça qui nous trahit. On se dit, mais qui est-il lui pour me parler comme ça? Qui est-il pour me reprendre? De toutes les façons, il ne comprend même pas. Oh, les chrétiens parlent beaucoup. Les chrétiens parlent. Mais bien-aimé, mets-toi devant le Seigneur. Humilie-toi. Est-ce que ce qui est dit est vrai selon la Bible ou pas? Bien, allons à l'essentiel. Suivons l'exemple de David. David a eu l'occasion de se venger sur Saül. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il se disait que Saül est loin de l'Éternel. Alors moi, je ne toucherai pas loin de l'Éternel. La méchanceté appartient au méchant. Moi, je reste correct. Je garde mon cœur pur devant Dieu. C'est cela. Dieu va nous façonner par sa parole. Nathan vient voir David pour lui dire, regarde ce que tu as fait. David ne passe pas par quatre chemins et dit, oui, c'est vrai, c'est moi. Bien-aimés, acceptons d'être façonnés par Dieu. Quand la parole est là devant nous, acceptons l'évidence de la parole. Ne cherchons pas à contester, à dire, moi je comprends comme si, moi je comprends. Je me rappelle une fois, on était dans une réunion de prière et une sœur parlait, témoignait. Et je ne sais plus comment les choses sont venues. On est arrivé à parler d'Éphésiens 5, 22 à 25. Et donc, on parle d'Éphésiens. Elle me dit, oui, mais femme, sois soumise. Ça, c'est votre lecture à vous, parce que vous êtes africain. C'est votre culture. Je dis, ah bon, mais toi, qu'est-ce que tu... Non. Ici, on est en Europe, les choses sont différentes. Pourtant, c'est une personne qui est chrétienne depuis longtemps. Bien-aimé, vous voyez une telle personne. Comment tu veux que Dieu travaille dans ton cœur? Tu refuses la parole. Ou alors tu veux la parole, mais telle que toi, tu l'entends. Mais non, mais Dieu ne va pas se soumettre à notre entendement, à nous, de la parole. Non, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Un jour, le Seigneur se révèle à Pierre en songe, il lui dit, écoute, acte 10, regarde ce que tu vois là. Tue et mange cela. Pierre dit quoi? Il dit, mais non, mais Seigneur, c'est impur, moi je suis juif. Dieu dit quoi à Pierre? Il dit, qui décide de ce qui est impur et de ce qui est pur? En fait, la vision de Dieu, c'était pour dire à Pierre, maintenant, va annoncer la parole aux gentils. Les gentils, c'était les non-juifs. Pierre se dit, mais non, mais moi je suis juif. Comment je peux... Mais Dieu lui dit, mais qui a fixé cette parole-là? C'est moi qui l'ai fixée. Donc c'est moi qui fais ce que je veux, c'est moi qui décide. Parce que c'est ma parole. Bien-aimés, acceptons de nous soumettre à la parole de Dieu. Un jour, Pierre s'est mal comporté, Paul est venu, Paul a repris, parce que Pierre voulait judaïser, il voulait dissimuler un peu la vérité pour ne pas choquer ses frères juifs. Paul est venu, il a repris Pierre, en disant non, là le comportement que tu as n'est pas un bon comportement. Pour, bien aimé, attention, c'est Paul qui reprend Pierre. Vous savez que Pierre, c'est celui à qui Jésus a donné la responsabilité en disant, tu es Pierre et sur cette révélation que tu donnes, de qui je suis, eh ben, je te donne l'autorité aussi sur l'église. Mais Paul a repris Pierre. Alors aujourd'hui, quand on te reprend, oui, mais qui t'a dit? Qui t'a dit? Ah, les gens jugent. Parfois, on prêche comme ça. Tu te dis, ah, le pasteur parle de ma vie. On lui a raconté. Bien aimé, c'est ça le façonnage. Même si on a raconté la vie, considère que Dieu te façonne. À partir du moment où on n'a pas cité ton nom, gloire à Dieu. Considère que Dieu te travaille, bien aimé. Au lieu de chercher pour dire, mais qu'est-ce que ça va faire? Qui a dit? Qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que ce qu'on dit est vrai ou pas? Est-ce que quand on me reprend, c'est fondé ou pas? Et même si j'estime que c'est pas fondé, eh ben je me soumets parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Bon, j'accepte. Bien aimé, c'est ça. Dieu veut nous façonner. Il va utiliser sa parole. La pêche miraculeuse. Ils ont travaillé toute la nuit. Jésus arrive, il dit, Pierre, avance en eau profonde. Jette le filet. Pierre dit, mais maître, mais nous avons travaillé toute la nuit. Mais qu'est-ce que tu nous racontes? Il dit, écoute, puisque c'est toi qui le dis, puisque c'est ta parole, alors je me soumets. Mais qu'est-ce qui est arrivé après, bien-aimé? Ils sont allés. On nous dit que les filets étaient tellement lourds. Ils ont dû appeler les autres, les amis, pour venir les aider. Et quand ils arrivent, Luc 5, 11, Pierre dit, c'est écrit qu'ils abandonnèrent tout. Et ils suivirent Jésus. Ils se sont dit, mais c'est extraordinaire. Mais parce que ils ont dû accepter de renoncer à leur raisonnement qui te dit, tu as travaillé toute la nuit. Pierre aurait pu dire à Jésus, mais toi, tu n'es pas pêcheur. Nous, on travaille dans la mer. On sait à quel moment il y a le gros lot à gagner dans la mer. On sait à quel moment il faut pêcher. On sait à quel moment... Mais Pierre dit, écoute Seigneur, sur ta parole. Un jour dans Jean 6, Jésus dit, faut manger ma chair, faut boire de mon sang. Ma chair est une véritable nourriture, mon sang est un bon breuvage. Bien aimé, Jésus enfonce encore le clou. Et là, ceux qui sont là, les disciples, certains partent. Jésus se retourne vers eux pour enfoncer encore, pour dire, et vous, pourquoi vous restez? Pourquoi vous ne partez pas? Ils disent, Seigneur, nous avons compris et nous avons su que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Bien-aimés, Dieu va nous façonner. Pierre pensait peut-être d'avoir déjà compris le Seigneur. Il pensait déjà peut-être avoir saisi les choses. Mais ce jour-là, Dieu les a amenés encore un peu plus loin. Comprendre que Jésus a les paroles de la vie éternelle. Et ces paroles de la vie-là ne font pas toujours plaisir à la chair. Ces paroles de la vie ne vont pas toujours satisfaire l'humain. Mais c'est ça, bien-aimé. On doit accepter quand quelqu'un nous reprend par rapport à la parole. Appuyons-nous sur la parole pour dire, Seigneur, puisque c'est ta parole, je me soumets. Nous, on va chercher les détails en disant, oui, mais regarde comment il m'a parlé, il m'a infantilisé. Regarde comment il m'a parlé, il m'a dit ceci. Mais c'est inacceptable. Oui, d'accord, c'est vrai. On va dire à l'autre, bon, on va t'excuser parce que tu as utilisé un mauvais ton. Mais toi, considère que là, le Seigneur veut encore travailler ça en moi. Je pensais que j'étais bon, mais non. Il y a encore ceci qui reste. Seigneur, aide-moi. Agis. Dieu va utiliser cela. Dieu va utiliser les épreuves. On a dit la première chose, il va utiliser la parole. Et cette parole-là va passer par les humains. Parfois un humain qui, parfois même un voleur qui va te reprendre, un païen qui va te reprendre. Et souvent on dit, oui, mais toi, tu oses me parler à moi? Toi, tu ne te regardes pas, tu oses. Vous savez, il y a des gens quand ils prennent un ton, ils disent, tu oses. Mais oui, parce que Dieu peut utiliser même un voleur pour te parler. Mais Dieu va utiliser aussi des épreuves pour nous façonner. Attendre 7 jours, pour Saül, c'était une épreuve difficile. C'était difficile. Saül, c'était quelqu'un qui était costaud, fort, qui avait une grande armée, qui a réussi tout ce qu'il faisait auparavant. Et là, Dieu te dit maintenant, allez, tu laisses, tu ne fais rien. Bien-aimé, pour quelqu'un qui est habitué à tout réussir, à prendre le téléphone, passer un coup de fil, les choses marchent comme il veut. Mais du jour au lendemain, ton sort n'est plus entre tes mains. Bien-aimé, c'est une épreuve difficile. C'est très difficile. Mais c'est là que nous devons apprendre à compter sur Dieu. Parce qu'il y a des choses, comme j'ai dit, 7 jours, l'homme peut faire des grands exploits par lui-même. Mais Dieu permettra qu'il y ait des situations qui vont nécessiter un miracle pour résoudre. Bien-aimé, je ne sais pas si on se comprend. Dieu permettra maintenant une situation où il faut un miracle. On te dit, bah tiens, monsieur, vous êtes sur la liste d'attente. Vous êtes 15e sur la liste d'attente pour être pris pour telle formation, pour être pris pour tel concours. Mais de 15e, Dieu peut dire, bon, tu seras retenu. Ça nécessite le miracle de Dieu. Parce que même si ton dossier est bon, même si tu as fait ce qu'il fallait, même si tu as cartonné à l'entretien, même si, bien-aimé, il y a des situations qui sont au-dessus de nous, qui ne dépendent même pas du patron, du formateur, qui dépendent de Dieu lui-même. Mais il faut accepter de laisser Dieu faire, de s'humilier. Vous savez, Moïse, un jour, il voit un Égyptien s'en prendre à son frère. Qu'est-ce qu'il fait ? Il vient, il tape l'Égyptien, il le tue. Et il part. Il avait une révolte. Il s'est dit, mais c'est pas possible. Nous sommes esclaves. Et voilà comment cet homme se comporte. Mais vous savez combien de temps Dieu a travaillé Moïse. On nous dit dans la Bible, Moïse a été l'homme le plus patient. Dieu a travaillé Moïse pendant 40 ans. Lui qui pensait délivrer son peuple par la force, bien aimé, comment il a délivré Israël ? Par la force, avec des armes. Mais non. Avec un bâton, Dieu lui dit, va voir Pharaon. Il dit, mais je ne sais pas parler. Il dit, ben écoute, prends Aaron. Va, Aaron sera ta bouche. Bien aimé, c'est ça qu'on appelle le façonnage, bien aimé, comprenons cela. Si c'était la force, Moïse aurait utilisé la force. Mais Dieu a fait oublier la force. Pendant plusieurs années, le brisement total. Aller voir Pharaon, sans armée, pour lui dire, laisse partir mon peuple. C'est de la folie, mais oui, c'est ça. C'est ça, le façonnage que Dieu fait dans nos vies. Toutes les ressources que tu as comme force, Dieu veut les briser. Ah, je ferai ceci, après je veux faire ça. Après mes études, je ferai ceci. Après, il y a des gens qui ont déjà un programme qui est déjà bien ficelé. Mais la Bible dit, l'homme dirige ses pas, l'homme médite ses voies, pardon, Dieu dirige ses pas. C'est-à-dire que tu médites, tu dis, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ci, je vais faire ci, mais Dieu, lui, vous savez, comme les enfants jouent avec des Legos, là. L'enfant qui joue avec les Legos, il met, ah tiens, je vais le mettre dans telle maison, je vais l'enlever là, je vais le mettre à tel endroit, je vais le mettre, et Dieu fait la même chose avec nous, c'est le potier. Toi, tu as fait tes calculs, mais lui, il te prend, il fait un autre calcul tout à fait différent. Moïse avait peut-être ses calculs à lui, mais Dieu fait les choses de manière différente. Pour le briser. Joseph, il a eu des songes. Peut-être que dans ses songes, parce que lui n'a pas interprété les songes, lui, il a raconté. Mais son père lui dit, ah bon, penses-tu que toi, tu vas régner sur nous, nous dominer ? Peut-être qu'en entendant ça, il s'est dit, ah, donc le songe que j'ai eu, ça veut dire que je vais être le chef de ma famille. Mais bien aimé, avec ce que Joseph a eu, vous pensez peut-être qu'il s'est rappelé des songes, peut-être. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est resté intègre, il aimait Dieu. Mais un jour, il dit au chef des échansons, lorsqu'il interprète ses songes, il lui dit, écoute, dans 3 jours, Pharaon va te rétablir. Tu vas servir le vin à sa table. Alors quand tu iras servir le vin à sa table, parle de moi. Pistonne-moi, s'il te plaît. Et on nous dit que quand l'échanson est parti, il a oublié Joseph. Joseph a dû rester en prison, oublié 2 années supplémentaires. Bien-aimé, on peut se dire, mais est-ce qu'il y avait besoin de... Mais bien-aimé, c'est Dieu qui est le potier, il sait ce qu'il fait. Dieu faisait un travail profond dans la vie de Joseph. Il voulait que Joseph soit un vase d'honneur à la gloire de Dieu. Et quand le temps a été accompli, est-ce que Joseph a eu besoin encore que... Non, c'est le Pharaon lui-même qui est allé chercher Joseph. Il interprète les songes du Pharaon. Il dit, voilà ce que Dieu dit, il y aura un temps d'abondance. Il faudra pendant le temps d'abondance stocker, mettre de côté. Et ensuite, il y aura un temps de famine. Et tout ce qui aura été stocké pendant l'abondance, on pourra utiliser pour permettre aux activités de se poursuivre. Pharaon regarde Joseph, il dit, écoute, je ne vois personne d'autre que toi pour mettre en place ce que tu fais, ce que tu dis. Mais bien aimé, Joseph a dû accepter d'être façonné par le Seigneur. Il a accepté l'épreuve. Et Dieu va faire avec nous aussi la même chose. Il va faire la même chose pour nous briser la colère. Il y a des gens qui sont connus comme étant impulsif. Dieu va te mettre dans une situation où tu devras attendre. Ta colère ne va rien changer. Ton énervement ne va rien changer. Je connais quelqu'un qui... Ah, vous savez, moi je rigole pas. Hein. Moi, j'appelle les opérateurs, ils entendent ma voix et c'est bon. Hein. Et bien aimé, souvent ça marche. Quand il appelle comme ça, il crie, ça marche. Alors toi, tu es là, tu dis, ah, moi j'appelle les CFR, on me roule dans la farine. Mais lui, il appelle avec la colère, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on est tenté de faire? On se dit, je vais faire la même chose. Je vais faire la même chose. Mais bien aimé, celui qui s'énerve, mais un jour, il va tomber sur plus fort que lui. Il va tomber sur un plus têtu que lui. Il va tomber sur un plus fou que lui, un malade. Et c'est là qu'il se rendra compte que finalement, ce n'est pas ça qui produit. Et nous devons comprendre cela, bien aimé. Acceptons, comme Joseph, d'être façonné. David, qu'est-ce que David n'a pas subi, bien-aimé? Qu'est-ce que David n'a pas vécu? Mais David s'est humilié. Un jour même, Shimei vient pour l'insulter en lui disant, mais regarde tout ce qui t'arrive, c'est à cause de ton péché. Dieu te punit parce que tu es un homme mauvais, sachant que Shimei, c'était un parent de Saül. Donc il venait pour se venger aussi. Et il crache sur David, il prend la poussière, il lance sur David. Vous vous rendez compte? David est roi d'Israël. Les gens de David disent, mais écoute, qui est cet homme, ce chien mort pour te manquer de respect? Allez, laisse, on va régler son compte en quelques secondes. David dit à ces gens, il dit, non, laissez. Quand Dieu verra ma souffrance, il aura pitié de moi. Bien-aimé, c'est cela. Acceptons d'être façonnés. Ne résistons pas, bien-aimés, dans les épreuves que Dieu met. Troisième chose que Dieu peut utiliser aussi, c'est notre environnement pour nous façonner. On a dit que Dieu utilise la parole, Dieu utilise les épreuves pour nous briser, pour nous travailler comme Job. Dieu va utiliser aussi l'environnement, les frères et sœurs, les collègues au travail. Des gens avec qui on est régulièrement, les voisins. Parfois, des situations vont nous amener à s'énerver. On se dit, non, Seigneur, non. Aide-moi, Seigneur, à être la lumière, le sel de la terre. Aide-moi, Seigneur, comme il est écrit dans Philippiens, à briller comme un flambeau au milieu d'une génération perverse. Vous savez quelle honte c'est parmi les païens de savoir que tel chrétien, lui, il est chrétien, mais c'est un nerveux. Lui, il est chrétien, mais il insulte les gens. Lui, il est chrétien, mais il gifle les gens. Mais quelle honte! Quelle honte! Or, Matthieu 5 nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes qui voient vos bonnes œuvres et qui glorifient votre Père dans le ciel. C'est ça que dit la parole de Dieu, bien-aimé. Alors, Dieu va utiliser l'entourage pour nous façonner. pour nous briser. On se dit, moi je suis le grand. Le petit ne peut pas me manquer de respect. Il ne peut pas me parler comme ça. Mais bien aimé, oui, Dieu va faire ainsi. Jésus est avec les disciples. Combien de fois Pierre a contesté? Quand Jésus dit, je dois mourir à la croix, Pierre dit non. Bien sûr, inspiré par le diable. Quand Jésus veut laver les pieds des disciples, Pierre dit non. À un moment, Jésus dit, Pierre, tu vas me renier. Pierre dit non, moi non, jamais. Mais Jésus a supporté cela. Jésus dit, mais jusqu'à quand je serai avec vous? Dans Matthieu 26. Jusqu'à quand je vais vous supporter? Il dit, mais vous êtes même incapable de lutter avec moi dans la prière. Mais Jésus a supporté ses disciples. Parce que comme il est écrit dans Jean 13, quand il sentait son heure venir, il a mis son amour au maximum. Bien-aimés, c'est ça que Dieu veut faire. Dieu veut nous façonner pour nous amener à un amour maximum. Il y a des gens parfois qui disent, oui, mais c'est plus facile à tolérer quand on a affaire à un païen, de vivre quelque chose de difficile, plutôt qu'un chrétien. Un chrétien, c'est normal de bien agir. Mais oui, mais Dieu peut utiliser aussi, bon, un chrétien entre guillemets, s'il est réellement ou pas, mais pour nous travailler, nous. Pour nous travailler. C'est ce qui est écrit dans Hébreux 5, verset 8. Paul dit que Jésus-Christ, bien qu'il fût fils, le fils de Dieu, a appris l'obéissance dans les choses qu'il a souffertes. Est-ce que Jésus n'était pas obéissant? Bien sûr qu'il était obéissant à son Père. Mais en acceptant de souffrir parce que c'était la volonté de son Père, il a montré réellement qu'il était le Fils de Dieu. Il a montré réellement qu'il était le Sauveur parce qu'il fut un temps où il s'est retrouvé à Gethsémané. Il a dit, Père, ce que tu me demandes est difficile, mais non pas ma volonté à moi, que ta volonté se fasse. Il a accepté d'être façonné jusqu'au bout. Et on nous dit qu'un ange, des anges sont venus pour le soutenir, pour le fortifier, bien-aimé. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dieu va utiliser notre entourage. Combien de fois on entend parfois, oh, le chrétien parle beaucoup. Ah, le chrétien ceci. Ah, le chrétien. Mais non, c'est toi qui as un problème. Ah, ben dans ce cas-là, je quitte l'église. Ou dans ce cas, je reste à la maison. Mais bien aimé, ce n'est pas parce que tu restes à la maison que Dieu va arrêter son travail. Vous savez, Dieu nous façonne partout où on est. Hein. Partout. Même dans une île déserte, Dieu va te façonner. Il va utiliser des animaux, il va utiliser la nature, il va utiliser des choses pour te parler, pour te façonner, pour t'apprendre que c'est lui qui est au contrôle. À un moment, Dieu a utilisé le corbeau pour nourrir son serviteur Élie, mais un corbeau, quelque chose d'impur, oui, mais Dieu va t'apprendre que ben, même si c'est impur, moi je l'utilise pour venir te nourrir. Accepte. Non, mais c'est pas possible. Oui, accepte. Bien-aimés, acceptons d'être façonnés par le Seigneur afin de devenir des vases utiles entre les mains du Seigneur. Dieu veut glorifier son nom. Dieu veut que par nous, son nom soit connu, mais c'est nous qui retardons, c'est nous qui refusons parce que nous refusons de céder, de mourir à notre propre volonté. Prions, bien-aimés, pour que Dieu nous aide à accepter, à atteindre le caractère de Jésus-Christ qui, existant en forme de Dieu, Philippiens 2, n'a pas regardé le fait d'être Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même. Et on nous dit dans Philippiens 2, ayant en vous-même les mêmes sentiments qui étaient en Jésus, on nous dit, n'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. Considérez les autres comme étant supérieurs à vous-même, bien-aimés. Luc 14 nous dit, quand tu arrives dans une fête, mets-toi à la dernière place. Bien-aimés, c'est ça le façonnage que Dieu fait. Parfois, ta femme va te parler. Bon, moi, nous, dans notre famille, les femmes ne parlent pas comme ça aux hommes. Mais oui, Dieu va permettre cela pour te travailler. Parfois, c'est un enfant qui va venir. Au lieu de t'appeler d'une certaine manière, tonton, il t'appelle par ton prénom directement. Ah ben, c'est irrespectueux. Oui. C'est irrespectueux, oui, mais le seul qui mérite le respect, c'est l'Éternel. Donc Dieu va te briser par rapport à ça. Bien-aimés, acceptons d'être façonnés au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous, Seigneur, accepter d'être façonné, de te ressembler, Seigneur. Tu vois toutes les occasions que nous avons manquées, Seigneur, où nous avons refusé d'être repris, Seigneur. Toutes les fois où nous avons cherché à nous justifier, même si nous avons raison peut-être, Seigneur, mais toutes les fois aussi où nous avons cherché à nous justifier parce que nous nous sommes sentis humiliés, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à accepter d'être façonnés. S'il le faut, Seigneur, passez pour celui qui a tort, mais pour ta gloire à toi, parce qu'en réalité, c'est toi qui justifies. Seigneur, façonne nos cœurs. Transforme-nous à ton image. Tu vois la colère qui est en nous, Seigneur, qui s'exprime régulièrement peut-être. Tu vois le manque de patience. Tu vois l'esprit de contrôle qui nous conduit à faire les choses telles qu'on a décidé et pas autrement. Toutes ces choses, Seigneur, nous mènent à nous énerver, à être irrités, à perdre patience. Seigneur, nous prions pour que tu nous façonnes aujourd'hui, Seigneur. Aide-nous à accepter le travail de ton esprit. Aide-nous à accepter le travail d'humilité, Seigneur. Aide-nous à accepter le travail de brisement. Aide-nous à accepter, Seigneur, la mort à nous-mêmes, Seigneur. Que nous puissions mourir à nous-mêmes, Seigneur. Que notre joie ne dépende pas, Seigneur, de ce qui va bien autour de nous, non. Mais que même dans l'épreuve, nous puissions nous réjouir. Que lorsque ta parole, Seigneur, est évidente à nos yeux, que nous ne puissions pas discuter, que nous puissions céder. Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus. À toi la gloire et la louange au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen.